Ah mais arrête de ruminer.
Arrête de te prendre la tête.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Christophe. Merci d'être au micro de ce podcast. On a entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et également te présenter ?
Bonjour, Mélodie. Alors, Christophe Desproges, j'ai 53 ans, je suis papa de deux enfants et je suis marié avec Karine, ça fait 11 ans. Je travaille dans une petite start-up qui s'appelle Microsoft, par anecdote, depuis 18 ans. Arrête de ruminer, oui, parce que je suis un ruminateur. Je suis quelqu'un qui a tendance à garder beaucoup, et je crois que je le disais ça de mon papa, on a tendance à garder beaucoup dans notre tête. On parle pas beaucoup de nos sentiments, nos émotions, etc. en général. Et par contre, on se parle beaucoup, à haute voix ou pas. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une forêt à 20 mètres de chez moi. Donc souvent, je mets les chaussures et je vais ruminer. Alors des fois, encore une fois, des fois c'est silencieux, des fois c'est pas en mode silencieux. Mais j'ai tendance à beaucoup ruminer. Et ça va avec la deuxième phrase, arrête de prendre la tête. Bien souvent, c'est pour des petites choses. Mais on a tendance à les garder. Et puis effectivement, c'est compliqué.
Tu parlais de ta famille. Est-ce que toi, par rapport à une éventuelle fin de différence ou un fonctionnement différent du cerveau, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus ou moins évidentes?
Alors, pas forcément sur moi, mais sur une de mes filles. J'ai une fille qui va avoir 7 ans, bientôt, là, qui est plutôt en avance sur son âge, au niveau école, au niveau apprentissage, etc. Et son pédiatre, alors, il veut pas la tester pour l'instant pour voir si elle est neuroatypique, si elle est HP, etc. Il me dit qu'elle est encore un petit peu jeune. Mais lui, c'est un pédiatre qui a dû avoir une soixantaine d'années, donc il y a pas mal de bouteilles, et qui l'appelle une fafa. C'est une fantastique fatigante.
C'est
donc,
génial.
Un petit peu hyper... Ouais, c'est pas mal. Donc, un petit peu hyperactive, et puis un petit peu, elle nous sort des trucs de temps en temps, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, du style, ah, mais papa, regarde tes peintures, là, c'est des algorithmes, etc. Donc, à 6 ans, ça surprend. Alors, quand on creuse un petit peu, on comprend qu'effectivement, ils étudient les algorithmes à l'école très vite avec les suites de nombres, etc., et les couleurs. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Moi, je fais pas ça, mais je suis fils unique. Alors, je sais pas si c'est aussi un rapport de cause à effet, mais c'est vrai que j'étais très, très renfermé tout petit. Je m'inventais forcément des copains imaginaires. Ça, c'est fini. Heureusement, j'ai plus de copains dans la vie réelle quand même maintenant. Mais ouais, j'ai eu ce côté, voilà, ce côté, je faisais certainement des choses qui pouvaient surprendre d'autres enfants. De la même façon, même aujourd'hui, je publie souvent des photos de fleurs, etc., parce que je suis devenu jardinier par passion. Et souvent, on me regarde en me disant, mais tu te rends compte qu'un les garçons et les fleurs, c'est pas forcément très évident comme corrélation. Donc voilà, ça c'est plus moi.
Oh, comment ça, les garçons et les fleurs? Enfin bon, bref, c'est un autre
oui,
sujet.
Oui, non, mais voilà, non, mais.
Mais oui, tout à fait. Alors, on a parlé un peu du perso. Au-delà du perso, il y a aussi évidemment la vie pro. Je sais qu'en plus, ton entreprise fait beaucoup de choses hein, sur tous ces sujets-là. Et toi aussi, à titre perso, au sein de ton entreprise, est-ce que tu pourrais dire comment le sujet est adressé?
Au niveau international, effectivement, chez Microsoft, on parle beaucoup de neurodiversité de plus en plus, comme beaucoup de boîtes américaines. Hein. Nous, dans nos boîtes, on a ce qu'on appelle des Employee Resource Groups. Donc, c'est des communautés qui vont d'une part s'adresser à des problématiques et puis d'une part regrouper les personnes pour les aider. Pour la France, c'est moi qui gère la partie handicap avec un grand H, donc toutes les formes d'handicap. Et nous, on considère que la neurodiversité, alors c'est pas beau à dire, mais on les englobe dans notre pilier handicap. Au niveau global, on fait beaucoup de choses. On a fait énormément de choses, par exemple, autour de l'autisme.
C'est vrai que c'est rentré par là, il me semble, d'ailleurs. En tout cas, ouais. Aux États-Unis, Microsoft, quand ils ont commencé à s'intéresser à neurodiversité, c'était via l'autisme.
Et exactement, parce que, alors, pour plein de raisons, il y a aussi des raisons, évidemment, d'entreprise. Il y a quelques années, comme beaucoup de boîtes, on sortait des produits, et puis après, on se dit, tiens, comment on va les rendre accessibles, par exemple, pour les personnes en situation de handicap? Là, je parle de toutes les situations de handicap. Ça coûte très cher, on le fait a posteriori. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, peut-être que ça serait bien qu'on intègre effectivement des personnes de toute forme de handicap, dont les personnes sur le spectre de l'autisme, à la création de produits, hein, pour justement penser de manière proactive à l'accessibilité numérique, etc. Ça veut dire aussi qu'on a changé, notamment aux États-Unis, notre méthode de recrutement des personnes autistes. C'est-à-dire qu'on va pas leur faire passer des entretiens classiques, face à face, etc., parce qu'on sait que ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Encore une fois, l'autisme, on sait que c'est chaque personne sur le spectre n'est pas forcément...
Il y a autant d'autisme que d'autistes.
Je sais qu'au niveau du vécu, dans les personnes que j'ai rencontrées, c'est effectivement le cas. Et donc, effectivement, au lieu d'interviewer de façon classique, on va les intégrer, par exemple, 2 semaines dans l'entreprise, et puis on va les faire participer à des projets, etc., etc. Donc, il y a une approche qui a été complètement revue. Après, effectivement, on a cette possibilité de les embaucher aux US. En France, on a d'autres méthodes. Je me rappelle notamment avec nos équipes sur l'inclusion. On avait développé avec les lunettes HoloLens, nos super lunettes, etc. Mm-hmm. Une application qui s'appelle JobNow, je crois qu'il a été repris après par Pôle emploi, qui permettait effectivement de mettre les personnes en situation d'autisme, tu leur mettais en fait les lunettes HoloLens, et ils apprenaient à passer des entretiens virtuels pour le jour concrètement où ils allaient se retrouver devant une vraie personne, ils allaient être beaucoup plus à l'aise. Donc il y a cette approche, et c'est vrai qu'au niveau de Microsoft, c'est rentré par l'autisme.
J'ai l'impression que ça s'est élargi aussi pas mal, ce petit à petit, oui. On se rend compte que ça va au-delà du sujet de l'autisme, la neurodiversité, et d'ailleurs même la définition avant englobait principalement l'autisme. Est en train d'évoluer beaucoup.
On entend parler, par exemple, effectivement, des hauts potentiels de plus en plus. C'est toujours compliqué parce qu'il y a ceux qui ont été diagnostiqués, puis il y a ceux qui s'auto-diagnostiquent. C'est toujours la même chose. Il y a aussi l'effet de mode. Mais c'est vrai que chez Microsoft, on en parle. En France, on en parle, mais on n'a pas encore fait grand-chose en interne autour de ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, parce que je suis entouré d'HPI, d'HPE, et il paraîtrait que je sois peut-être un petit peu HPE. On va essayer de faire quelque chose là-dessus.
Alors juste pour préciser, HPE, alors HPI au potentiel intellectuel, tu l'as dit, HPE c'est au potentiel émotionnel. Voilà, techniquement en fait, on parle aussi plutôt d'hypersensibilité. Il y a plusieurs notions qui se recoupent.
C'est exactement ça.
Parce qu'à l'inverse du HPI, il n'y a pas de, en tout cas à date, pas de test officiel ou autre méthode scientifique pour le mesurer clairement. Donc c'est selon l'avis de psy qui peuvent évaluer ce point-là. Voilà, c'était juste pour préciser.
Tu as raison. Non, tu as raison. Mais c'est vrai que moi, je suis entouré. Bah, par exemple, Marc, avec qui je fais le club des burn-out et des bienveilleurs, a été diagnostiqué HPI. Ça, c'était assez drôle. C'était une coach qu'on avait interviewée pour un de nos podcasts. À la fin du podcast, elle dit, de toute façon, c'est pas compliqué. Tous les deux, vous êtes des hauts potentiels. Marc, ça l'a tellement perturbé qu'il a été chez une psy. Alors, on fait pas les tests comme ça dès le premier rendez-vous.
Non, il y a toujours un premier rendez-vous, en effet, de découverte. Et après, si on juge que c'est nécessaire et que ça en vaut la peine et que le psy aussi est... Et le bon pour le faire passer, dans ce cas-là, on passe le test.
C'est exactement ça. Donc, il s'est fait diagnostiquer à plus de 50 ans. Ça a été, pour lui, ça a été important et ça a été révélateur de beaucoup de choses. Et il a compris beaucoup de choses derrière. Moi, j'en suis pas là, mais tu parlais d'hypersensibilité. Oui, c'est un gros problème pour moi. Je suis hypersensible. En plus, comme je rumine, et ben forcément, ça fait mal à l'intérieur et on a du mal à l'extérioriser.
Oui, c'est ça. Ça devient physique.
Ça devient physique, ça devient somatique. Et bon, moi, je suis passé par la case burn-out. Il y avait tous les hypersensibles et tous les HP ne font pas des burn-out, heureusement. Mais on a quand même une propension, on a un terrain quand même qui est favorable à faire du burn-out parce qu'effectivement, tous les hauts potentiels et puis je pense que beaucoup de neuroatypiques avec cette pensée en arborescence où ils vont dans tous les sens, etc., ils sont tellement pas compris, pensent tellement différemment des autres que bah, parfois, ils ont cette propension à éclater de l'intérieur, brûler de l'intérieur. Et nous, on l'a constaté, on ne pense pas qu'il y a encore des études qui les révélaient officiellement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une corrélation entre le burn-out et les hauts potentiels et inversement.
En fait, ce qui est compliqué, oui, sur ces études-là, c'est que bien souvent, et comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément... les gens s'ignorent aussi ou se découvrent tardivement, l'exemple tout à l'heure. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident aussi de connaître clairement le lien. Dans les études à date, le lien n'est pas établi. Au contraire, même si on voit les derniers livres de Nicolas Govrit notamment, mais on constate qu'en effet, ça peut être le cas. Mais comme toute personne qui, comme tu le dis très bien, se situe dans un décalage par rapport à une norme, à une fatigabilité aussi, qui peut être différente ou supérieure selon les profils. Et donc, forcément, ça peut jouer. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, d'ailleurs, on donnera toutes les infos, mais quelques mots sur ce club que vous avez fondé ensemble ?
Pour faire très simple, moi, il y a 6 ans, j'ai fait un burn-out qui a duré quelques mois. Alors, j'ai pas fait un burn-out comme mon compère Marc. Lui, ça a duré 1 an. Quand je suis revenu dans ma boîte, j'étais plus ou moins en mi-temps thérapeutique non officiel, mais c'est vrai que je travaillais pas des journées complètes, etc. La première chose que j'ai fait, c'était de faire un call, faire une réunion virtuelle avec mes collègues pour leur expliquer par quoi j'étais passé. D'une part, évidemment, on est dans le mode confidentiel, donc personne ne savait que j'avais fait un burn-out. Et j'ai eu ce besoin très vite de tout expliquer. Expliquer le pourquoi, du comment, le comment je m'en étais sorti, etc., etc., à tel point que j'ai commencé à publier là-dessus. sur différents réseaux. Au départ, l'optimisme, par exemple, de Catherine Testa, après sur LinkedIn. Et puis, j'ai commencé à t'interpeller régulièrement en message privé pour parler de mon expérience, etc. Et puis, un jour, eh ben, j'ai partagé cet article à mon PDG de l'époque. Du coup, on avait monté une conférence, je crois que c'est il y a 4-5 ans, peut-être 4 ans, une conférence en interne sur le burn-out.
Et qui n'est pas un sujet évident à traiter, surtout en interne.
Quasiment impossible. Je pense que je suis tombé au bon moment avec la bonne personne, parce que je crois qu'il y avait eu des initiatives dans le passé qui avaient pas, ça n'avait pas fonctionné. Marc, mon ami, alors Marc, c'est un ami de 18 ans chez Microsoft. Alors, il a fait un burn-out il y a 20 ans, mais c'était passé un petit peu aux oubliettes, parce qu'il y a 20 ans, on ne connaissait pas trop. Il en a refait un il y a 3 ans. Après, sa femme, la deuxième personne qu'il appelait, c'est moi. D'une part, on est amis, et surtout, il savait que j'étais passé par là. Et puis, lui, ça a duré presque un an. En vacances, bah écoute, ça va faire à peu près 2 ans. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire autour de cet engagement? Parce qu'on était de plus en plus contactés par des personnes qui voulaient nous raconter leur histoire. Alors, nous, on n'est pas thérapeutes. On les écoutait avec notre côté hypersensible. Donc, ça veut dire qu'on prenait aussi tout en effet miroir. Et ce qui veut dire qu'on se protégeait pas du tout. On est tombé sur des cas très graves. Et puis, jusqu'au jour, on s'est dit, on va arrêter d'une part, de passer 3 heures avec des personnes qu'on connaît pas pour les écouter parce que c'est chronophage. On se protège pas, nous, au niveau psyché. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on a décidé, effectivement, de créer une plateforme qui s'appelle donc le Club des Burnoutés et des Bienveilleurs autour de la bienveillance. Au départ, ça devait être simplement des podcasts, interviewer des personnes qui étaient passées par le burn-out pour raconter leur histoire, comment elles en étaient sorties, parce qu'on avait une éthique très simple, hein, c'est vraiment des personnes qui sont sorties du burn-out, surtout pas des personnes qui sont en plein dedans, on ne saurait pas gérer de toute façon. On s'est rendu compte que ça marchait, ça a évolué, parce qu'en plus, Marc, il est quand même très, très, c'est un peu le geek, hein, c'est le webmaster, etc., donc il a fait une super plateforme. On a commencé à partager des écrits, des articles qu'on trouvait, etc., etc. Ça a évolué. Donc, de temps en temps, voilà, on fait des webinaires en externe. Et hier, d'ailleurs, on a fait une conférence en interne chez Microsoft, tous les deux sur scène, pour sensibiliser, pour partager nos expériences, pour alerter aussi sur les signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles ou les symptômes du burn-out. On estime, alors c'est un petit peu présomptueux, mais pourtant on est très humble. On considère ça comme notre mission de vie, vraiment d'aider les autres, bah pas tomber dans ce piège-là. Et quand on a créé cette plateforme, c'était vraiment quand nous on est tombé, on aurait bien aimé avoir une plateforme justement d'entraide entre guillemets. Et à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus.
Ah bah super. Écoute, de toute façon, on donnera les infos bien sûr. Mais bon, en tout cas, une très belle initiative. Et en plus d'être très belle, elle est utile.
Malheureusement, elle est très utile, ouais.
Ah ouais, malheureusement, oui, t'as raison de le préciser. Avant de terminer, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager? Un conseil peut-être pour des personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions sur, on parlait de décalage tout à l'heure, que ce soit personnel ou en entreprise peut-être, pour les aiguiller, les conseiller?
Ouais, un truc très simple. Ce que nous, on dit aux gens qui autour du burn-out, parce que c'est quand même notre truc, c'est renseignez-vous et posez des questions et demandez de l'aide. La différence, alors si on parle de neurodiversité, la différence, ça fait peur à beaucoup. Malgré tout, on sait que c'est pour nous, c'est une force aussi. Demandez de l'aide. Parlez-en autour de vous, parlez-en à votre médecin. Si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, si vous avez des angoisses, etc. Et puis après, le médecin, il va être là pour vous guider, hein. Ça, c'est super important. Il vous envoie voir un psychiatre ou un psychologue, etc. C'est son métier d'identifier. Donc, demander de l'aide, c'est très compliqué, on le sait. Nous, je sais qu'au niveau du burn-out, on parle beaucoup du déni. Hein, les gens qui le voient pas ou qui, non, c'est pas moi, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible, ça m'arrivera jamais, etc. Il faut oser demander de l'aide. Il faut passer le pas et c'est super compliqué. Hein. Je sais que chez les garçons, en plus, on a ce côté, surtout pas nous parler de vulnérabilité, etc. On est des hommes forts, etc., etc. Mais à un moment donné, ça peut arriver à tout le monde. La neurodiversité, bah, il y en a tout autour de nous, donc voilà, il faut l'accepter, puis il faut vraiment demander de l'aide si on a besoin, si on en éprouve le besoin. Et puis truc très simple, hein, aujourd'hui on a Internet, on peut se renseigner, hein. Et éviter les autodiagnostics aussi, ça je crois que c'est super important pour tout ce qui tourne autour de la neurodiversité, du burn-out, etc.
Oui, tu avais raison de le dire, en effet, le côté autodiagnostic, alors parfois ça peut être des pistes pour aller creuser, mais si on creuse trop tout seul ou toute seule, on risque de tourner en rond et de pas forcément avoir les bonnes réponses, parce que ce seront pas les bonnes questions.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça, tu l'as vraiment bien dit, c'est effectivement, ça va concrètement, alors c'est pas beau, mais ça va dégrosser un petit peu la thématique, on va pouvoir se renseigner un petit peu. Mais à un moment donné, il faut quand même pas. Il y a des pros, hein. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui ont appris. Donc, il faut s'appuyer sur eux. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, effectivement, d'aller voir même potentiellement un psy, etc. Il faut surtout pas avoir peur.
Merci beaucoup pour ce dernier conseil. Et bah merci au global, Christophe, pour tout ce que tu as pu partager. Et donc, ton club, donc votre club, pardon, avec Marc, très utile aussi, où on redonnera les informations. Tu peux nous redonner son nom.
C'est le club des burn-outés et des bienveilleurs.
Super. Eh ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.